Morning Edition from NPR News.
Das ist ein Kinderhaus.
France Inter, le 18-20.
Les élections au Portugal nous intéressent ce soir parce qu'elles ont vu dimanche une victoire absolue du PS. Le score promettait d'être un peu plus serré. Elles nous intéressent aussi parce que dans ce pays qui a quitté la dictature en 1974, l'extrême droite fait une poussée remarquée et passe de 1 à 12 sièges. On y vient tout de suite. Le bruit du monde ce soir est en Tunisie où le président Saïed s'est arrogé les pleins pouvoirs il y a 6 mois. Il veut maintenant revoir par un grand sondage sur Internet l'ensemble de la constitution post-révolution. Le bruit du monde de la suite, sous les radars, Sébastien Legénie a trouvé un vieux contentieux rallumé entre le Japon et la Corée, la plus grande librairie de Gaza qui rouvre ses portes et une querelle de syndic dans un palais vénitien du 15e siècle. 18h50, passons genre dans le monde. Et Julia Foyce, avec des femmes qui manifestent en Afghanistan à leur manière, en Uruguay aussi, avec également des sorcières catalanes. Et puis 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four. Et cette question, et si les pays africains avaient raison de mettre la France dehors? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Yves Léonard.
Bonsoir.
Vous êtes membre du Centre d'Histoire de Sciences Po, spécialiste du Portugal contemporain, enseignant-chercheur associé à l'Université de Rouen-Normandie. Dans un tout petit instant, on rejoindra aussi Olivier Bonamici, qui est le correspondant de France Inter à Lisbonne. Yves Léonard, son budget avait été retoqué, c'est pour ça d'ailleurs que les élections anticipées ont été convoquées. Personne au fond ne donnait cher de sa peau, et pourtant, António Costa a donc une majorité absolue, le choix des électeurs, il est sans équivoque, et tout le monde a été un peu surpris, en tout cas par l'ampleur ou par la reconduction, en fait, ou les deux.
Effectivement, les deux, parce que il y a de cela 3 semaines, en fait, les sondages indiquaient que l'avance serait très importante pour le Parti socialiste et Costa, et l'écart s'est réduit avec des annonces de Costa pendant la campagne qui parlait d'une majorité très confortable, pour éviter le mot de majorité absolue. Et puis au fil des jours, ça s'est réduit dans les sondages, au point que quelques jours avant le scrutin, eh bien, ils étaient côte à côte et l'incertitude semblait grande. Donc c'est vrai que l'effet de surprise a joué. Même si, au regard de la situation il y a quelques semaines, c'est assez cohérent. Non, ce qui a surpris, c'est le fait d'obtenir la majorité absolue après 6 ans d'exercice du pouvoir. Alors, ça, c'est une prouesse, en quelque sorte.
Alors, est-ce que le message des Portugais, du coup, c'est « Oulala, en l'état, le changement, c'est dangereux, on n'en veut pas, donc on vous donne aussi une majorité stable, allez-y ». Est-ce que c'est ça le message en creux des Portugais ?
Il y a de ça, le slogan de campagne de Costa, c'était « Continuons ». Il y a eu assurément ce réflexe qui a joué. Il y a eu aussi la crainte, certainement, dans les derniers jours, avec les sondages qui se resserraient d'un retour, peut-être, sur l'avant-scène de la droite, et de la droite dans un montage qui était empreint d'incertitude. On va en parler.
Avec l'extrême droite, on y viendra, bien sûr.
De l'extrême droite. Et donc, c'est tout ça qui a joué pour que, finalement, cette victoire qui était annoncée mais courte, ric-rac, eh bien, elle s'est transformée en large victoire.
Yves Léonard, la division entre partis de gauche, le PS et les autres, tenait à un budget qui n'était pas assez social, pas assez d'augmentation du salaire minimum, pas de gratuité dans les crèches, pas de régulation du prix du loyer, pas de réforme du droit du travail. Donc, j'ai 2 questions en une. D'abord, comment on le qualifie, du coup, António Costa ? Est-ce qu'on dit que ça s'appelle la gauche pragmatique ? On y met des guillemets. Est-ce que vous seriez d'accord avec ce terme-là ? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, l'extrême gauche regrette son coup. Si elle s'est effondrée, est-ce que c'est une mauvaise lecture de la société portugaise, selon vous ?
Alors, première chose, le Parti socialiste, Costa, se qualifie comme social-démocrate, plutôt ancré au centre-gauche. Et quand il a pris le contrôle du parti en 2014, eh bien, il a clairement assumé cette ligne par rapport à une autre ligne qui avait précédé, qui était, on va dire, plus social-libérale. Donc, c'est un social-démocrate assumé comme tel et qui essaye de gouverner, d'ancrer son gouvernement au centre-gauche. Après, sur la question de la gauche, cette crise qui est arrivée à l'automne dernier, Il y a eu certainement, et a posteriori c'est encore plus évident, une erreur de lecture. Hein, une erreur de lecture parce que provoquer cette crise par différents biais, alors maintenant tout le monde se renvoie la responsabilité, mais enfin, de fait, il y a une volonté forte de la part du bloc de gauche et appuyé par le Parti communiste de pointer du doigt, en fait, le Parti socialiste et Costa, qui, à la fois par lassitude et parce qu'il n'y avait pas d'autre solution à ses yeux de marge de manœuvre, de négociation, on est arrivé à cette situation où, finalement, le bloc de gauche et le Parti communiste, même si ça n'était plus la configuration depuis 2019, elle avait évolué, c'était plus ce qu'on appelait la gérigonza pure, il n'y avait plus d'accord écrit, mais les deux formations pesaient par différents biais. Là, avec cette élection anticipée et le résultat de dimanche, eh bien, on a deux formations qui ont l'une divisée par deux le nombre de ses sièges et l'autre qui continue son érosion, le Parti communiste. Et donc, ils vont beaucoup moins peser, par la force des choses, dans les mois qui viennent.
Et justement, Olivier Bonamici, bonsoir à vous, Olivier.
Bonsoir.
Et c'est intéressant ce qu'on entend là de la part d'Yves Léonard, parce que votre lecture à vous, celle de votre quartier, j'allais dire, celle de l'endroit où vous vivez, et qui est même un vrai quartier communiste, au fond, résonne avec ce qu'on vient d'entendre.
Oui, c'est vrai que j'habite dans un quartier, dans la banlieue de Lisbonne, qui a longtemps été gouverné par les communistes, encore beaucoup de poids ici, c'est une ville qui s'appelle Almada, donc tout près de Lisbonne, une quinzaine des communes de Lisbonne. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'électeurs d'extrême gauche qui ont voté socialiste dimanche dernier, vraiment énormément. Parce qu'il faut le rappeler, ils se sont dit, le centre droit pouvait quand même gagner selon les derniers sondages. Et donc, la gauche, voilà, le vote utile a fait la différence. Et je me souviens parfaitement, le jour des élections, dans mon quartier, avoir parlé donc à des voisins qui votent habituellement communistes et qui m'ont dit, Olivier, là, on n'est pas socialiste, on est toujours communiste, mais on ne veut surtout pas le retour de la droite au pouvoir. Parce que pour eux, la droite est fortement associée à la Troïka, qui avait imposé de sérieuses mesures d'austérité, on s'en souvient. Et ce genre de témoignage, j'en ai eu beaucoup dimanche. Et quand je suis rentré chez moi, bon, là, bien sûr, il n'y avait aucune base scientifique, attention. Hein,
ouais.
Je me suis dit, si cette tendance se confirme au niveau national, le Parti socialiste aura la majorité absolue. C'est ce qui s'est passé. Et puis, dernier petit point important, à mon avis, la droite portugaise n'a jamais été très claire avec l'extrême droite. Alors certes, il n'y avait pas d'alliance prévue, pas de ministre en cas de victoire, mais il y avait quand même un accord au moment des municipales dans l'île des Açores, entre droite et extrême droite. Et puis la droite disait, si vous ratifiez notre budget, là, ça peut le faire. Mmh. Et ça, pour l'électorat de l'extrême gauche, c'était pas envisageable.
Olivier Bonamici, merci beaucoup. On va vous rappeler, parce que la ligne est très mauvaise pour pouvoir continuer un peu cette conversation. Yves Léonard, on entend le vote utile, en fait, dans ce que nous raconte Olivier Bonamici, de ce que vous nous avez expliqué avant. On entend le vote utile. Sur quoi, cependant, pensez-vous qu'il a été plébiscité? Est-ce qu'on parle de sa gestion du Covid, qui a plutôt été une gestion sans heurts? On parle de quoi, en fait, pour l'image finalement assez lisse de ce monsieur Costa?
Oui.
Antonio Costa.
C'est quelqu'un qui est Antonio Costa, et c'est quelqu'un de très, très rassembleur, hein, qui dégage beaucoup d'empathie. Il est apprécié, populaire. Sur le volet, effectivement, de la gestion de la crise sanitaire, ça a plutôt été porté à son crédit. Et quand on regarde les résultats du vote, il y a deux de ces. La ministre de la Santé et le secrétaire d'État à la Santé ont été élus en tête de liste dans leur circonscription. Mais c'est un beau score à Coimbra d'un côté, à Leiria de l'autre. Donc c'est un signe que cette gestion a plutôt été appréciée.
Et pourtant, l'hôpital, ça a été un thème de campagne. Là aussi, ça nous rapproche d'ailleurs.
Ça a été un thème de campagne parce que, et là aussi, c'était un marqueur quand même droite-gauche. Hein. On voit bien que sur la gauche, bien évidemment, le bloc de gauche et le Parti communiste étaient extrêmement désireux qu'il y ait une protection maximale du système national de santé, du système hospitalier public, mais le Parti socialiste aussi a montré son inclinaison pour ça. Donc, je crois que y a une popularité, et le fait aussi que c'est un homme qui est considéré comme ayant, on va dire, la carrure. La carrure au sens où, par exemple, l'an dernier, à la même époque, il a présidé le conseil de l'Union européenne. Et à ce titre, il a fait un parcours qui a plutôt été remarqué, montrant qu'il avait aussi une envergure internationale. Donc c'est toutes ces dimensions qui ont joué, qui rassuraient, et peut-être aussi par comparaison avec ses adversaires, enfin ses concurrents.
Olivier Bonamici, puisqu'on vous a retrouvé sur une meilleure ligne, au fond, quand on regarde les choses de loin, nous, au Portugal, on se dit, bah dites donc, voilà un pays, au fond, où les choses vont bien. Évidemment, c'est sûrement une lecture très tronquée.
Un tout petit peu. Ouais, c'est vrai que les Portugais n'ont pas dit aux socialistes, vous avez fait du bon boulot. Ils ont plutôt dit, la droite ne serait pas mieux que vous. Parce que les problèmes, ils sont là, ils perdurent. Hein, et notamment, le problème numéro un au Portugal, c'est vraiment les salaires. Le SMIC est à 700 euros, le salaire moyen à 1 300. Et en parallèle, les prix du logement qui flambent. Hein. Tenez un exemple à Lisbonne, on l'a su aujourd'hui. Les prix ont grimpé de 12% à Lisbonne en l'espace d'un an. Et ça, c'est aussi pour ça que les jeunes sont... C'est un autre problème très portugais. Il y a eu quand même 100 000 départs de jeunes par an avant la pandémie. Et ça va être le grand défi des socialistes. Donner un coup de boost à l'économie, faire repartir le tourisme pour que finalement le Portugal rattrape un peu son retard au niveau salaire et pouvoir d'achat par rapport aux autres pays européens. Puis il y a aussi un autre moment qu'attendent vraiment avec beaucoup d'impatience les Portugais. C'est la manne financière du plan de relance européen.
16 milliards.
C'est aussi peut-être pour ça que Antonio Costa a été réélu. Une des raisons. Voilà pourquoi tout changer. Parce que là, on a un moment tellement important. Et cette première enveloppe de 15 milliards d'euros qui devrait rapidement arriver dans les caisses de l'État.
Merci beaucoup Olivier Bonamici. Et puis donc Yves Léonard, il y a ce troisième point qui est quand même un point crucial et important, l'extrême droite, 12 élus, 7,5% des voix. C'est la première percée de très grande taille depuis 1974, depuis la révolution des œillets. D'où ça sort, pardon de le dire comme ça, mais pourquoi cette percée là maintenant?
Il y a eu pas mal de signes avant-coureurs déjà en 2019.
Et il y avait déjà un siège, ça ne sort pas de nulle part, mais néanmoins.
André Ventura, son leader aussi, l'an dernier, à la même époque, a occupé la troisième place, si on peut dire, à l'élection présidentielle. Il a fait 12%. Donc c'est aussi beaucoup cristallisé autour de sa personnalité. Et puis il y a cette fragmentation et cette recomposition de la droite, des droites portugaises. Et on voit bien que ça pèse avec un électorat qui a désavoué un petit parti, le CDS, qui est disparu du Parlement et dont une partie de l'électorat et même des cadres ont rejoint Chega, le parti d'extrême droite. Et ce parti d'extrême droite populiste, utilisant beaucoup les réseaux sociaux et sur un modèle très inspiré par Trump, Salvini et quelques autres, manipule beaucoup l'opinion avec quelques thèmes qui martèlent jusqu'à l'infini sur l'insécurité, la corruption, les communautés gitanes
surtout,
qui sont pointées du doigt, responsables de tout, ou à peu près, et un discours xénophobe. Bref, c'est sur ce fond-là que Ventura prospère avec son entrain et sa jeunesse, et puis son maniement assez fluide des médias. Il vient aussi de cet univers et ça se sent.
Alors c'est vrai que c'est un homme assez jeune qui a cette espèce de franc-parler. Nous, comme on aime bien les comparaisons, est-ce que vous diriez qu'il ressemble à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour? Parce que on entend le côté très populiste et en même temps, le discours anti-immigration n'est absolument pas le même. Il n'y a pas de discours sexiste non plus. Donc vous diriez qu'il est sur quel, qui ressemble à qui en fait?
C'est difficile parce que Marine Le Pen était venue lui rendre visite lors de la campagne présidentielle il y a un an. Il emprunte des traits odieux, je dirais. C'est quand vous dites pas sexiste, il tient souvent des propos sexistes.
Ah oui.
Ventura, c'est pas quelqu'un dans ce domaine-là. Il a accablé une députée qui a d'ailleurs quitté le Parlement. Il a accablé de remarques à la fois à caractère raciste et sexiste. Et puis quand vous regardez la composition des 12 députés qui ont été élus sous son étiquette, il y a une seule femme. On peut gloser à l'infini. Ventura, c'est quelqu'un qui manie à la fois la fibre du récit national, Et ça, ça fait penser évidemment fortement, encore plus fortement à Zemmour, avec un roman national exalté, puisant ses racines dans des siècles d'histoire, et au relent un peu, on va dire, même fortement salazariste, avec les châteaux médiévaux et ce qu'il appelle les Portugais de bien, c'était son slogan de campagne, il y a un an, et par ailleurs, c'est quelqu'un qui utilise la modernité des réseaux sociaux, des algorithmes, hein. Donc c'est cette ambivalence.
Est-ce que ça veut dire que le Portugal, désormais, c'est décomplexé, on va le dire comme ça, de la période salazariste et qu'on peut à nouveau être d'extrême droite au Portugal, comme il le prouve exactement, comme les voisins ont Vox, qui a fait une percée aussi, qui peut ressembler à celle-là. Donc est-ce qu'on s'est décomplexé de cette période-là ou est-ce qu'on s'en réclame d'une certaine façon ou pas ?
Décomplexé d'une certaine manière, on va dire que la parole s'est libérée, pour reprendre une formule souvent utilisée, de là à ce qui est ce registre ou nostalgique, s'assimilant à une forme d'exaltation du passé salazariste, non. Il y a plutôt des utilisations de thématiques. Quand je vous parlais de la corruption, la corruption, on exalte la figure supposée exemplaire du dictateur Salazar, parce que etc. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, mais Ventura, il faut pas, il a fait une percée très importante. Ce qu'il faut voir au Portugal, c'est que vous avez quand même, quand vous regardez les chiffres, vous avez 42% ou presque pour le Parti Socialiste, 27-28% pour le PSD qui a obtenu un revers, et ce sont les deux partis phares qui surplombent un peu cette. Et puis très très loin derrière, heureusement, le 7,5% de Chega, qui est un coup de semonce, un de plus, mais qu'il faut à la fois mettre en perspective et regarder à travers l'évolution de la droite portugaise. Et ce qui va peser là-dedans, ce qui va peser dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, c'est que il s'est toujours servi du Parlement comme d'une caisse de résonance, donc à 12 députés, ça va amplifier, et surtout, il va pouvoir capitaliser sur l'extrême fragmentation, on va dire, de la droite. Disons que il y a un espace qu'il va occuper et il va entraîner, droitiser encore plus le discours des autres s'ils veulent se rentrer dans cette concurrence.
Et c'est bien ce que j'allais vous demander, ce sera la dernière question. Les prochaines élections, c'est loin, hein, c'est 2026, est-ce que ça lui laisse justement le temps de se structurer et de devenir la force de droite, ou le temps de s'effondrer après tout ?
Ben ça, je suis pas devin. Après, sur un certain nombre de thèmes, alors c'est ce qui est souvent dit au Portugal, il y a un problème de contenu, évidemment, les thèmes qu'il manie, mais de crédibilité. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'agitation, dans le maniement des médias. Oui. Après, sur le fond, est-ce qu'il peut incarner une espèce de leadership à droite ? Ça reste extrêmement
à voir
et il n'est pas sûr qu'il en ait lui-même les épaules. Après, il y a toute une équipe qui l'entoure. Tout va dépendre dans les mois qui viennent de la reconfiguration annoncée de longue date, mais là cette fois-ci avec le PSD qui a eu un revers. Il y a certainement une refonte. Est-ce que ça va l'entraîner sur la pente et la concurrence avec le discours de Chega, ou au contraire, c'était la voie qu'avait privilégié le candidat Rui Rio, plutôt d'une forme de centrisme à droite, et qui a échoué? C'est une des questions qui se posent.
Et ben, à suivre, en tout cas, grâce à vous, peut-être avec vous, Yves Léonard. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. On salue Olivier Bonamici également.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde en Tunisie, où le président veut changer la constitution issue de la révolution et veut consulter pour ça les Tunisiens par Internet. Et puis la bande habituelle qui nous emmène jusqu'au journal de 19h sous les radars, Sébastien Logénie.
Des mines d'or japonaises candidates à l'UNESCO, nouveau sujet de discorde avec Séoul, car le Japon a forcé des milliers de Coréens à y travailler au XXe siècle.
Passons genre dans le monde et Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir, et beaucoup d'inquiétude pour deux Afghanes militantes féministes portées disparues aujourd'hui.
Le monde d'après, Jean-Marc Faux, bonsoir à vous.
Bonsoir à tous, on va jouer les poils à gratter. Et si les pays africains, à l'image du Mali, avaient raison de mettre la France dehors?
Allez, le tour de la planète, ce n'est pas fini, il passe par l'Égypte et un peu de Grande-Bretagne aussi avec Natacha Atlas. Oasis, c'est dans Un jour dans le monde et sur France Inter.
Surround
Le bruit du monde, ce soir, est en Tunisie, où 6 mois après s'être accaparé tous les pouvoirs, le président Kais Saied propose une consultation populaire via Internet. C'est une première dans la région et dans le monde arabe. Un QCM sur tous les thèmes, l'économie, la politique, l'environnement. Kais Saied veut changer la constitution née après la révolution de 2011. Il affirme qu'il se basera sur les résultats de cette grande consultation qui court jusqu'à la fin du mois de mars pour changer le mode de gouvernance. L'opposition dénonce une manœuvre populiste, il appelle au boycott. Et le reste, c'est notre correspondante en Tunisie, Maureen Mercier, qui raconte.
Dans la petite ville de Sidi Yassine, à quelques kilomètres de la capitale Tunis, Wajdi, 43 ans, découvre les questions sur son téléphone portable. Exemple, seul l'État est habilité à organiser les affaires religieuses. Réponse possible, oui, non, sans opinion. Au total, une trentaine de questions façon QCM, et cette question qui intéresse particulièrement le président, quel régime politique préférez-vous, présidentiel, parlementaire ou mixte? Wajdi, qui soutient Kais Saied, est ravi.
J'ai enfin l'espoir que l'État suive la bonne voie. Avant, personne ne nous entendait. On parlait dans le vide. Avec cette consultation, on voit enfin apparaître un début de vraie démocratie.
Rachida semble perdue derrière un immense comptoir. Depuis le décès de son mari, c'est elle qui doit tenir la petite quincaillerie. Elle avait voté pour Kais Saied lors de la dernière présidentielle, mais elle regrette.
Moi je ne participerai pas à sa consultation parce que je n'ai aucune confiance. Je préfère le vote, les élections pour exprimer ce que je pense. Si on a fait une révolution, c'est bien pour cela, pour respecter le vote, les scrutins, les élections. Ces méthodes sont très choquantes, selon moi. Franchement, je suis pessimiste pour l'avenir. Je suis plus que déçue. Vous savez, lorsque Kais Saied a pris ses décisions, j'en ai pleuré.
Dans une petite boutique de fripes, Rim tente, elle, de trouver des vêtements à prix cassé. Comme l'immense majorité des Tunisiens, son pouvoir d'achat continue de s'effondrer. 33 ans, au chômage, elle ne se fait plus d'illusions et non, pas question pour elle de participer à cette consultation.
Qu'est-ce que cette consultation va changer ? Rien. Qu'on nous demande ou non notre avis, rien ne changera. Plus rien ne va dans ce pays. La seule chose qui a changé depuis que Kais Saied s'est emparé du pouvoir, c'est les prix qui ont augmenté. Le prix de l'huile, du sucre, tout.
Après une semaine de consultation à peine, le président entouré des ministres annonce solennel les résultats préliminaires. 82% des personnes interrogées veulent passer à un régime présidentiel, dit-il. Le président qui se garde de préciser que pour l'heure, à peine plus d'1% du corps électoral a participé à sa consultation nationale. L'opposition décrit cette consultation comme une tactique populiste dont l'unique objectif pour Kais Saied serait d'asseoir son pouvoir.
C'est évident que ça va aussi servir à ficher les gens. C'est absolument évident.
Aziz Krishen est une grande figure de la gauche tunisienne et opposant au président Kais Saied. Évidemment qu'à la question « Participerez-vous à la consultation ?», sa réponse est...
Répondre aux questions débiles du questionnaire, non. L'objectif politique derrière ce truc-là, c'est de dire « Les Tunisiens veulent un régime présidentiel fort. Il y a les questions qui concernent directement Kais Saied dans sa recherche de pouvoir personnel. »
Pour lui, très clairement, Kais Saied est une menace pour la démocratie. Mais ce qui le rassure, c'est que selon lui, il ne pourra jamais tenir.
On a aujourd'hui un chef de l'État qui se présente comme une espèce de sauveur. Et simultanément, un gouvernement choisi par lui, qui applique à la lettre les directives du FMI, alors que le pays est dans un état de dépression économique et sociale très grave, qui vise à aggraver encore plus la récession et les difficultés des gens. Tout ça va péter.
La consultation court jusqu'au 20 mars. Pour l'heure, sur 12 millions d'habitants, à peine plus de 100 000 Tunisiens y ont participé, selon les chiffres officiels.
Maureen Mercier dans Un jour dans le monde et sur France Inter. Merci beaucoup Maureen. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logeni. Et Sébastien, nous sommes sur l'île de Sado, c'est au Japon, au cœur d'un nouveau contentieux diplomatique entre le Japon et la Corée du Sud.
Oui, l'île de Sado, connue pour ses mines d'or, les premières mines exploitées de façon industrielle, ouvertes au XVIIe siècle, fermées en 1989. Trois siècles d'histoire industrielle nippone parfaitement conservée et que le Japon entend bien valoriser. Le gouvernement a donc déposé aujourd'hui une candidature officielle au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une demande qui vire à l'incident diplomatique avec la Corée du Sud qui rappelle que des milliers de Coréens ont été obligés de travailler de force dans ces mines de Sado pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les journaux télé coréens se font l'écho de la colère des autorités depuis quelques jours. Séoul dit regretter profondément cette initiative. Le ministère des Affaires étrangères a même convoqué l'ambassadeur japonais en Corée. Il faut dire que les relations entre les deux pays ne sont pas bonnes depuis des années, notamment sur ces questions historiques, conséquences de l'occupation nippone. Le Japon, rappelons-le, a occupé la péninsule sud-coréenne de 1910 à 1945. 800 000 Coréens, pendant cette période, ont été soumis au travail forcé. Or, ces dernières années, le Japon, afin de satisfaire son électorat le plus nationaliste, cherche à promouvoir son héritage culturel. Plusieurs sites industriels sont déjà entrés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015. À l'époque, la Corée du Sud avait accepté, à la condition toutefois d'informer le public que les Coréens y avaient été exploités de force au XXe siècle. Une promesse que le Japon n'a que partiellement tenue. Pas sûr que l'UNESCO, cette fois, soit aussi bienveillant.
La culture qui renaît de ses cendres, c'est à Gaza.
La plus grande librairie de Gaza va en effet rouvrir d'ici une dizaine de jours, après avoir été détruite l'an dernier par des bombes israéliennes. On parle ici de la librairie Al-Mansour, le temple des livres à Gaza, là où les lycéens achetaient leurs manuels, les musulmans pratiquant leur Coran, ou les poètes une traduction de Dostoïevski en arabe. Ce lieu de culture a été réduit en poussière le 18 mai 2021, lors des 11 jours de conflit entre le Hamas et l'État hébreu. L'armée israélienne avait alors expliqué que la librairie n'était pas sa cible, mais que le bâtiment où elle était installée abritait une installation du Hamas. On entend ici le propriétaire de cette librairie historique, Samir Al-Mansour, libraire de père en fils, désespéré par la destruction de sa boutique, qui était aussi souvent sa maison, dit-il. L'histoire a suscité l'émoi dans le monde entier. Un avocat américain avait alors lancé une campagne de dons internationale. Au total, 250 000 dollars collectés, 150 000 livres envoyés à Gaza, si bien que la librairie Al-Mansour va pouvoir rouvrir ses portes le 12 février prochain, à 100 mètres de son ancien immeuble. Son propriétaire, Samir Mansour, n'a demandé qu'une seule chose, avoir des livres de Harry Potter pour que les enfants de Gaza puissent s'évader un peu.
Allez, on parle encore patrimoine, cette fois à Venise, où un ascenseur fait polémique.
Oui, avec au cœur de cette controverse une question, un lieu historique peut-il être modernisé au risque d'être dénaturé? L'histoire fait les choux gras de la presse italienne car elle met en scène l'une des stars transalpines, j'ai nommé Rosario Fiorello, comique, acteur, showman qui fait exploser les audiences à la télé. Voilà, Fiorello, que l'on entend là dans un show télé, est depuis peu l'heureux propriétaire d'un appartement dans un palais vénitien du 15e siècle avec vue sur le Grand Canal. Or, lors d'une assemblée de copropriétaires, Fiorello a voté oui, comme la majorité d'ailleurs, pour l'installation d'un ascenseur à l'extérieur, dans la cour du palais, afin de permettre à un couple âgé notamment de plus facilement monter les étages. En face, deux voix contre, deux voix pour qui l'arrivée de la modernité dans un palais vieux de 6 siècles est impensable. Alors au-delà de cette querelle de syndic, le débat fait rage. Depuis en Italie, peut-on rénover les édifices historiques pour les rendre plus pratiques au risque de les défigurer, avec deux camps qui s'opposent dans les médias, les anciens, les modernes, les défenseurs de la pureté architecturale face à ceux qui veulent améliorer l'existant. En attendant que la copropriété se décide sur cet ascenseur de la discorde, Fiorello, lui, va devoir encore monter ses 6 étages à pied.
Ascenseur et terrasse, moi je vote pour, oui. Je le dis franchement, Sébastien. Merci beaucoup, à demain, vous partez avec Curtis Harding, Forevermore, sur France Inter. I can't keep my cool with you. I've been playing the fool, it's true. There has to be some rules between us two. Can't keep my cool. She's wearing a different suit. Harding, Forevermore sur France Inter. Mesdames, messieurs et autres gens, Julia Foy, c'est là. France Inter.
Un jour dans le monde.
Et Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT, des nouvelles des Afghanes qui ne sont pas très bonnes ce soir.
On en parle régulièrement ici du courage de ces femmes qui, depuis le mois d'août et l'arrivée au pouvoir des talibans, ne lâchent rien, de comment régulièrement elles descendent dans la rue, bravant toutes les interdictions pour simplement demander le droit d'étudier et de travailler, de comment surtout chacune de ces manifestations est brutalement réprimée. La dernière avait eu lieu le 16 janvier, des témoins avaient assuré que les talibans, après avoir dispersé les manifestantes, avaient suivi certaines d'entre elles jusqu'à leur domicile. Eh bien, visiblement, c'est vrai, en témoigne cette vidéo postée la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme, au regard et à la voix effrayée, apparaît voilée, enfermée dans son appartement. À ceux qui tambourinent à sa porte, elle demande de partir. Elle dit qu'elle est seule chez elle avec ses sœurs. À nous, elle demande de l'aide. Et puis plus rien. Ce sont les derniers mots de Tamanna Zaryabi, portée disparue depuis ce jour-là. Militante féministe, membre de l'association Seeking for Justice, elle était de toutes les manifestations contre les talibans au pouvoir. Tout comme Parawana Ibrahim Kel, elle aussi arrêtée à son domicile et la même soirée par de semblables hommes armés. Face à la BBC qui enquêtait, un responsable du régime a tout démenti. Cette vidéo est un mensonge, nous n'avons rien à voir là-dedans, a-t-il affirmé à la télévision britannique. Évidemment, ça n'a pas suffi aux Nations Unies. Très inquiète, elles ont demandé à Kaboul de localiser ces deux jeunes femmes et vite.
Les femmes dans la rue, Julia, en Uruguay également.
Dans des conditions bien évidemment nettement moins dangereuses, mais tout de même, tout est parti d'un énième viol collectif. L'information tourne en boucle dans les médias et déclenche la colère des associations féministes qui alors appellent à descendre dans la rue. Elles ont été des milliers à répondre présent vendredi à Montevideo, la capitale, mais également à travers tout le pays, applaudissant, dansant, scandant non, c'est non. Elles ont appelé à une vraie politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Au cœur des discours et des attentions, cette loi globale contre les violences de genre, annoncée et votée en grande pompe par le précédent gouvernement. Un texte très fort, hein, en théorie seulement, puisqu'aucun crédit ne lui a été alloué. Rien. Zéro. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'on nous prend pour des idiotes, mais quand même un peu.
La Catalogne réhabilite ses sorcières. Pardon, Julia.
Vous savez, ces femmes accusées de sorcellerie entre le 15e et le 18e siècle parce qu'elles vivaient seules, parce qu'elles n'étaient ni mère ni épouse, parce qu'elles possédaient un certain savoir, celui de guérir ou bien celui d'accoucher, sous la houlette de l'Église et du patriarcat, hein, appelons un chat un chat. On en a torturé, pendu, brûlé, des milliers, accusés sans preuve et parfois même sans procès. Une persécution misogyne, dit cette résolution adoptée au Parlement catalan mercredi dernier, pour réhabiliter la mémoire de ces femmes et, entre autres choses, donner leur nom à des rues de la région. L'Écosse avait adopté un texte similaire le mois dernier. Et oui, c'est dans l'air du temps. Oui, c'est une conséquence hautement symbolique du mouvement féministe actuel. Jen Diaz, députée catalane et co-autrice de la résolution, l'évoquait d'ailleurs à la tribune juste avant le vote. Avant, on nous appelait les sorcières. Maintenant, on nous appelle les féminazies, les hystériques ou les mal baisées. Avant, on parlait de chasse aux sorcières. Et maintenant, on parle de féminicide. Et alors, Fabienne, comme j'aime bien vous laisser un bon petit sujet de débat pour le dîner, hein, avant de vous quitter, je vous le demande. Ce parallèle permet-il d'en déduire que non, rien ne bouge parce qu'on continue de tuer les femmes en raison de leur genre, ou que si, espèce de bécasse, c'est moi la bécasse, hein, c'est pas vous, justement, ça bouge parce qu'au moins, aujourd'hui, on en parle.
Voilà, et vous, c'est tous les mardis, en tout cas, Julia
Foïs. La bécasse.
Merci beaucoup.
Fabienne Saint-Hès, le 18-20.
Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Après l'annonce de l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, la tension reste forte entre Paris et Bamako. Et la question de l'avenir de l'opération militaire française Barkhane est posée. Et comme vous aimez bien regarder les choses à rebrousse-poil, vous vous demandez, vous, si les pays africains, à l'image du Mali, n'ont pas raison de virer la France. C'est votre monde d'après.
Alors, que dit la junte à Bamako? En résumé, nous sommes souverains et c'est notre droit de pousser la France vers la sortie. Eh bien, il y a du vrai là-dedans. D'abord, il faut rappeler le fondement juridique de l'intervention militaire française au Mali, l'opération Serval devenue Barkhane. Paris n'agit pas avec un mandat international de l'ONU. Depuis 9 ans, Paris agit sur un mode bilatéral à la demande du pouvoir malien pour lutter contre la menace djihadiste. Donc si le pouvoir en place à Bamako ne veut plus de cette aide française, il n'y a plus de fondement. Vous me direz, oui, mais enfin, c'est une junte militaire à la légitimité douteuse. Certes, mais elle possède aussi une forme de soutien populaire. Une partie de la population malienne ne supporte plus la présence française. Ensuite, même d'un point de vue franco-français cette fois, l'importance accordée à la lutte contre le terrorisme au Mali peut se discuter après tout. La sécurité sur le sol français n'a jamais été menacée par un terroriste venu du Sahel, du moins jusqu'à présent. Et ça, ça fait une grosse différence avec le groupe État islamique en Syrie. On sait à quel point il est venu ensanglanter la France. Ajoutons enfin que Paris est un peu pris à son propre piège. La France d'Emmanuel Macron plaide pour une souveraineté accrue des pays africains, la fin de la France-Afrique, la montée en puissance des armées locales dans la lutte contre le terrorisme. Eh bien, nous y voilà, après tout, et plus vite que prévu, acte de souveraineté du Mali, la France dehors. On peut relever d'ailleurs que ça peut aussi marcher en sens inverse. Hein. Le Niger voisin, lui, semble vouloir au contraire renforcer sa coopération militaire avec Paris. À chacun sa souveraineté, à chacun sa position.
Donc, en résumé Jean-Marc, que les pays africains gèrent leurs affaires eux-mêmes.
Ouais, c'est dans ce sens qu'il faut regarder aussi l'essor des organisations régionales et internationales sur le continent. Il y a d'abord la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 16 pays. Elle s'implique vraiment dans les crises en cours, avec notamment à sa tête le Ghana ou le Nigeria. La CEDEAO a mis en place des sanctions très strictes contre les militaires maliens. Suspension des échanges de première nécessité, gel des avoirs du Mali. Et puis elle a envoyé une délégation au Burkina pour rencontrer les autres putschistes du moment. Et les militaires de Ouagadougou sont d'ailleurs plutôt apparus désireux de respecter les libertés publiques, contrairement à leurs voisins de Bamako, ce qui prouve combien il faut éviter de mettre tous les pays africains dans un même sac, dans un raccourci trop rapide. Ensuite, il y a l'Union africaine, l'organisation continentale, relancée depuis qu'elle a été présidée par le Rwandais Paul Kagame. Elle a encore des difficultés de financement, mais elle agit. À partir de demain, le Sénégal en prend la direction. C'est le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président sénégalais Macky Sall a des cartes en main pour influer sur la situation au Sahel. Puis il y a aussi des grands projets, par exemple la ZLECAF. C'est la grande zone de libre-échange sur tout le continent qui, à terme, peut constituer le plus grand marché au monde. Bref, si les pays africains prennent en charge leur destin, bah ça c'est une bonne nouvelle.
Enfin, tout ça, ça reste un petit peu théorique quand même.
Oui, c'est théorique, c'est vrai. Il y a de nombreux écueils, j'en vois au moins trois. Le premier écueil, c'est l'illusion du pouvoir autoritaire. Les putschs militaires en Syrie de ces derniers mois sont la traduction d'une désillusion vis-à-vis de la démocratie, en tout cas quand elle est synonyme de corruption et d'inefficacité. Mais ça ne veut pas dire que les militaires vont faire mieux. Le deuxième écueil, c'est évidemment la propagation du cancer islamiste, en tout cas dans le Sahel, parce que pendant que les putschistes putschisent, les groupes djihadistes prospèrent et maîtrisent certains territoires. Et puis le troisième risque, c'est de passer d'une tutelle à une autre, pousser l'ancien colon français vers la sortie, mais pour mieux se jeter dans les bras des mercenaires russes, on le voit au Mali ou en Centrafrique, ou dans les bras des banques chinoises, c'est le cas depuis longtemps en Afrique de l'Est et de plus en plus à l'Ouest également. Autrement dit, mettre la France dehors n'est pas une solution en soi, c'est davantage un slogan facile. Et c'est pour ça aussi que l'Union européenne, à son niveau, doit impérativement entretenir le lien et nourrir des partenariats avec l'Afrique. C'est l'objet d'un sommet qui est prévu dans 15 jours à Bruxelles, à l'initiative, justement, de la présidence française de l'Union européenne. Donc le contexte va rendre ce rendez-vous périlleux, mais en même temps, il est plus nécessaire que jamais.
Jean-Marc Four et Le Monde d'après, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Le 18-20, ça continue avec, dans un tout petit instant, le journal d'Hélène Philippe. Et juste après, il y a le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. N'échangez rien.